Chapitre 9. L'anxiété qui passe. Mais alors, les jours suivants, ce qui peu à peu germa dans le cœur de Denis le Marec, puis leva, frémissante et vivante moisson, comme le fourmillement de pointes vertes, comme l'ondulation veloutée d'un champ de blé, ce fut le croissant désir de voir Geneviève Goualen, de lui parler, de lui dire à elle ce qu'il se disait à lui-même avec une ardeur de plus en plus vive. Jusque-là, n'ayant rien avoué, n'ayant pas complètement compris ce qui lui arrivait, ce qui se passait dans les limites de son cœur, il avait pu se contenter de choses vagues, d'aspirations indéterminées, de promenades indécises, de questions banales sur Goualen et sur sa fille. Maintenant, rien de tout cela ne pouvait plus lui suffire, le contenter. Il aimait, et il sentait qu'il aimait. Seulement, à partir de ce moment, sa tranquillité fut bouleversée. Certes, lui l'aimait de tout son cœur, de toute son âme, à lui donner sans hésiter sa vie. Mais elle, partageait-elle cet amour? C'est à peine si, deux ou trois fois depuis un mois, au cours de ses excursions, il avait pu l'apercevoir de loin, l'entrevoir en passant, et, bien que leurs regards se fussent croisés, bien qu'il eût cru deviner en elle un certain trouble, une véritable émotion, il ne pouvait en saisir la nature et doutait, tremblant de n'être pas aimé. Ce fut dans son existence une phase nouvelle, jusqu'alors ignorée, toute différente de celle qui avait précédé. Une perpétuelle anxiété le troubla, le poussant aux résolutions les plus extrêmes et les plus contradictoires, aussitôt rejeté que conçu. Tantôt il voulait précipiter les choses, aller directement trouver Geneviève chez son père. Tantôt il se disait qu'il serait plus prudent, plus sage, de continuer à garder le silence, de ne rien brusquer, de peur de tout perdre par une hâte maladroite. Il commençait à comprendre qu'il y aurait, pour lui et pour ses projets, danger à heurter trop directement son oncle, très bon, mais aussi très autoritaire, à blesser peut-être Balanec en contrariant les desseins que ce dernier avait à son égard. Assurément, il serait plus habile, si cela pouvait se faire, de les amener peu à peu par la force des événements à penser comme lui, à approuver son inclination. Mais des idées si nouvelles, en si complet désaccord avec ses anciennes manières de penser, ne le hantait pas sans amener en lui des transformations visibles pour tous ceux qui l'approchaient, surtout pour l'abbé Pierre Kerbiriou, pour Marianne, la vieille servante, dont il était l'unique préoccupation. Ce fut elle qui s'en inquiéta la première. Elle essaya de s'en expliquer avec son maître, demandant quelques jours plus tard. « Vous ne trouvez pas, monsieur le recteur, que notre Denis change beaucoup ?» Depuis l'autre soir, surtout, le soir qu'il fallait lui arracher les paroles de la gorge qu'on aurait dit « Tu crois, Manaïque ?» Et, exagérant son étonnement, le curé avait ajouté « Pas possible, il me paraît toujours le même à moi, un peu moins bavard, voilà tout, il n'y a point de mal à cela. « Ah, bon Jésus, c'est donc que vous ne voulez pas voir, monsieur le recteur ?» Elle avait joint les mains en un geste d'apitoiement et, hochant la tête, « On ne peut pas s'y tromper, cependant. Il ne mange plus, lui qui dévorait. Il ne jase quasi plus, lui qu'on aurait dit la roue du moulin tellement il allait vite et fort. Il a toujours l'air de ne plus être là quand on lui parle et il répond plutôt de travers qu'autrement. Sans compter que la nuit, quand il devrait dormir à point fermé, après des courses comme celles qu'il fait, il remue tout le temps et parle à haute voix. Je l'entends de ma chambre. » Le curé approuva, secouant doucement la tête. « Parfait, parfait. Très bien. » Elle eut une indignation. « Comment ? Cela vous fait plaisir qu'on croirait ?» Il la regarda, souriant, énigmatique. « Peut-être, ma bonne Manaïque. La Providence a ses voies que nous ne connaissons pas, ses intentions que nous ne devons pas pénétrer. » Une douce malice luisait sur ses lèvres et venait donner à toute cette physionomie une bohémie heureuse, tandis qu'il songeait sous les yeux de la vieille femme, toujours stupéfaite. « Allons, ça marche, ça marche. Il n'y a que le premier pas qui coûte. Je savais bien, moi, qu'il finirait par y voir clair en son cœur. Sans doute il a fallu qu'il s'habituât à cette idée, que cela le prit peu à peu. Ah, cette fois, mon gaillard, je crois que tu ne penseras plus tant à tes voyages, que tu ne rêveras plus de t'absenter pendant des années. Quelque chose te retiendra ici. » Il riait tout haut, scandalisant de plus en plus Marianne, révoltée de ce qu'elle prenait pour un manque de cœur de la part de son maître, car elle balbutia tout bas. « Oh, monsieur le recteur, vous, si bon, si charitable d'habitude, votre propre neveu, qui aurait jamais pensé, et s'il tombe malade ?» Il ne s'occupait plus d'elle, tout à son idée, monologuant. « Maintenant, ça ne peut plus durer bien longtemps, il faudra qu'il avoue. » Encore un peu de patience, et le mariage sera fait. Qu'il la voie dans toute sa beauté, admirée de tous, triomphante comme elle le sera à la procession de notre croix de mission, et je suis sûr qu'il n'hésitera plus, qu'il aura vite choisi entre son goût pour la mère et elle. Alors, nous pousserons activement les choses, et peut-être plus de voyages au long cours. Il sera bientôt temps d'en parler sérieusement à Balanec. Et lorsqu'il songeait ainsi, c'était au moment même où Denis, de plus en plus dévoré de sa fièvre d'amour, s'aventurait du côté du Cap de la Chèvre, errant au hasard à travers la lande, s'étant promis de ne pas rentrer à Camaret sans avoir vu Faïque Gualen, sans lui avoir avoué qu'il l'aimait.